Jean de la Brette, Un mirage. Chapitre 1. Les temps, mai. Mon voyage a été heureux et charmant, cher ami. Ni fatigue, ni ennui, ni accident. Point de bagages égarés et aucune discussion avec la douane. En même temps que mes goûts errants, mes goûts de sociabilité ont été souvent satisfaits et il faudrait un volume dont je vous fais grâce pour que vous voyez jusqu'à quel point j'ai joui, observé et appris. Ainsi que vous l'aviez prévu, j'ai laissé les dernières amertumes perdues dans les merveilles rencontrées sur mon chemin et sachez-le, vous qui avez sauvé mon esprit du naufrage, je comprends de mieux en mieux les ressorts qui mènent le monde. Combien de fois ai-je pensé à vous? Je ne saurais le dire. Je n'admirais pas un des beaux sites dont vous m'aviez parlé. Je ne voyais pas une œuvre d'art sans désirer partager avec vous mes impressions. N'est-ce pas vous qui m'avez appris à comprendre l'âme du monde et ce souffle unique, divin, qui l'anime et la développe? Je ne vois plus rien sans que mes yeux ravis et mon intelligence ouverte ne jouissent de Dieu qui émane de la grandiose beauté d'un pays ou de la beauté plus discrète des détails. Comment se peut-il que, de nos jours, tant d'esprits égarés s'enfouissent dans un lourd matérialisme? Je ne le comprends pas, et quand mon âme est touchée par la magie du divin qui vit, respire en nous, et partout, je me sens devenir apôtre, je voudrais, comme vous le voudriez vous-même, sortir l'humanité de son abaissement en l'initiant à l'harmonie générale qu'elle méconnaît. Et maintenant, me voici revenu chez ma sœur. Je reprends pour quelques mois le cours tranquille de cette existence sans secousse. En même temps, avec la souplesse que donne l'amour de la vie, j'ouvre mon âme au plaisir de la campagne, mon intelligence à l'intérêt qu'offre la culture des champs et l'exploitation des forêts. Toujours active, toujours assimilatrice, elle ne permettra pas à l'ennui de la toucher. J'ai naturellement retrouvé ici le bonheur que j'y avais laissé. Quel coup de vent pourrait renverser la barque de ces heureux? C'est l'union la plus parfaite. Ils ne cherchent rien au-delà de ce qui est et accomplissent, sans même y songer, le travail de leurs forces respectives. Les enfants ont grandi et sont charmants. Ils m'ont immédiatement appris les événements qui, en mon absence, ont marqué certains jours d'un trait remarquable. La perte d'un oiseau, la naissance d'un chien, la capture d'un écureuil, les progrès de mon neveu comme chasseur. Ces riens sont délicieux, nous les avons connus et ils ont laissé dans notre souvenir la fraîcheur des joies faciles. Nous avons tort lorsque nous sourions volontiers de ces atomes, ils entrent souvent pour beaucoup dans notre apport moral. Vous me demandez s'il y a des changements autour de nous? Rien que je sache, si ce n'est que la vieille maison des Moulins est habitée. Ce détail vous intéressera puisque vous songiez à l'acheter. Notre nouveau voisin appartient à la famille dont la branche aînée s'est éteinte précisément au moulin et dont nous avons, comme vous le savez, sans raison de nous souvenir. En digne campagnard sevré de distraction, mon beau-frère et ma sœur désirent la visite du voyageur qui est venu se poser subitement dans leur voisinage. Comme il est membre de la branche cadette qui, voici 150 ans, s'en est allé coloniser, lui-même a été planteur, éleveur, je ne sais quoi, dans je ne sais quel pays. La Floride, je crois, ou peut-être les Antilles. La Floride a-t-elle donc des habitants qui nous ressemblent? Vous allez sourire de cette réflexion et penser qu'elle est bien étriquée pour quelqu'un qui a la prétention de donner à ses idées une envergure mondiale. Nous sommes toujours les mêmes, avec nos tendances à croire que la vie existe seulement dans nos cercles personnels. Je sais, heureusement, étendre le cadre restreint de mon premier mouvement. L'univers est à celui qui le comprend bien et je veux être celui-là. Adieu. Catherine. Mais, vous pouvez, très cher ami, constater par le ton de ma dernière lettre que je suis en bonne disposition. La Providence m'ayant appris ce que tant de gens ignorent, je suis en paix et j'aime la vie malgré le coup qu'elle m'a donné. Cependant, quel moment quand on m'a appris que mon bonheur venait de se perdre dans l'universel? Quel cri de mon âme si cruellement blessée! J'ai failli mourir. À présent, je bénis Dieu que la tourmente ne m'ait pas emportée. Ne devais-je pas apporter mon contingent de vie à la vie? Ne devais-je pas coopérer à cet inconnu qui progresse et progressera? Chaque individu, par ses souffrances, par ses efforts, apporte sa part au progrès en marche. D'ailleurs, a-t-il vraiment disparu, celui qui m'avait pris la main pour traverser avec moi l'existence entière ? Son âme a rejoint l'âme de toute chose. Elle me sourit dans le rayon de soleil qui éclaire ma chambre, dans la corolle qui s'entr'ouvre, dans la nuée que chasse la tempête. Grande et religieuse pensée qui apaise un cœur et développe sa foi. Vous me dites que l'esprit de ma sœur ne répond pas à la tournure du mien. Mais dans cette diversité, il y a un grand plaisir. Notre affection est vive, elle a été resserrée par les malheurs presque identiques qui nous ont atteintes l'une et l'autre à l'aurore de la jeunesse. Elle est heureuse, elle a reconstruit promptement son bonheur. Moi, en attendant, je me plais dans l'observation de mon moi, de celui des autres, de leur rapport avec la création entière. Vous me parlez de mon voisin mystérieux. Est-il donc si mystérieux ? Je l'ignorais. Plaisantes sont les déductions que je vois s'amonceler dans votre cerveau. Quelle machine admirable qu'un cerveau ! Que de voyages il accomplit en une seconde ! Vous en êtes la preuve palpable. Mais je m'empresse de calmer votre dépit au sujet de la maison. Elle a été louée, non achetée. Vous pourrez donc l'acquérir un jour si, comme je l'espère, votre fantaisie ne s'envole pas sur un autre point. Nous avons aperçu à l'église le locataire de votre future propriété, mais de visite, aucune. Ce personnage prend des proportions épiques. Il court sur lui des histoires quasi fabuleuses et notre curiosité s'irrite. Voici des aveux qui donnent raison à votre imagination et me mettent en contradiction avec mes affirmations précédentes. Mon beau-frère, surtout, s'impatiente car il tient à être bien avec son voisin à cause des chasses. Il faudra être aimable, très aimable, nous a-t-il dit. Quand l'occasion se présentera, nous serons donc diplomates. Celui qui sera l'objet de notre future diplomatie est de stature élevée, comme tous les hommes de cette famille, châtain de barbe, bronzé de visage, avec des yeux bleus, tranquilles et observateurs, autant que j'en ai pu juger de loin. Nous n'aurons personne cette année à l'étang, excepté vous, j'espère. Peut-être vous laisserez-vous fléchir. L'imprévu est charmant, du moins ce que nous appelons l'imprévu. Vous me direz que, ayant entrepris un travail, ce serait faiblesse de l'abandonner. Mais qu'est-ce qu'une faiblesse, si ce n'est le mouvement qui tend vers la marche mystérieuse des forces et des défaillances humaines ? Adieu. Catherine. Juin. Quelques visites aux environs, des lectures, la pêche avec mon neveu, telles sont les occupations qui m'ont retardé pour vous écrire. Ce n'est pas une excuse, j'ai des heures complètes à moi. J'en profite pour méditer, flâner, en considérant les attentions délicates que la Providence a semées sous nos pas. Chaque brin de mousse est une émanation d'elle-même, chaque rayon de lumière, chaque chant d'oiseau, chaque constellation est le langage animé de la grande divinité que l'Antiquité avait si bien comprise. Ma flânerie n'est donc apparente. Elle recouvre des pensées et de vifs élans vers le Dieu dont vous et moi déchirons chaque jour quelques voiles. Toujours dans l'expectative en ce qui concerne notre voisin, nous finissons par le considérer comme un misanthrope irréductible et nous déplorons de plus en plus de ne pas vous avoir pour voisine. Quelle satisfaction de pouvoir vous rencontrer sans cesse, d'échanger nos impressions et nos idées, sans passer par une correspondance qui refroidit toujours l'expression de la pensée. Une circonstance m'a permis de parler à cet ennemi des hommes. Il a oublié les belles manières dans les pampas, en supposant qu'il ait connu les pampas. Il vous observe froidement, commence par prononcer quelques mots civilisés, puis vous tourne le dos avec un sans-gêne tout à fait remarquable. Telle est mon impression première. Il nous occupe tellement que je me demande si sa présence n'a pas une raison qui s'harmonisera un jour avec notre propre destinée. Chaque fait n'a-t-il pas une place que nous ne voyons pas ? Assurément, en me saluant d'un air rogue et mécontent, il ne pensait pas que sa présence dans le pays me ferait philosopher. Mais un fétu peut entraîner le raisonnement fort loin, à plus forte raison la vue d'un homme dont la famille a des liens éloignés avec la nôtre et qui ne s'en soucie. Nous nous préparions cependant à le recevoir les bras ouverts. Il nous intrigue. Est-ce un être terre à terre ? Est-ce un original ? Est-ce un coupable qui vient oublier le passé loin du théâtre de ses fautes ? S'il en était ainsi, je voudrais le connaître pour lui donner la paix. Grâce à vous, je sais que le mal, au fond, est un bien dont la répercussion ne vient pas toujours jusqu'à nous, mais dont l'intention salutaire, sous une forme ou sous une autre, est certaine. Tout est bon, puisque tout concourt au développement des mêmes forces. Aujourd'hui, j'ai aperçu notre solitaire conversant avec un petit garçon en pleurs qui lui racontait à mots entrecoupés un malheur promptement consolé par le don d'une pièce de 5 francs. Jamais je n'ai vu stupéfaction pareille à celle de cet enfant, en regardant d'abord la pièce, puis le donateur qui s'éloignait après m'avoir honoré d'un salut. « Tu es content ?» dis-je à l'enfant. « Pour sûr, madame, et on ne dira plus que c'est un mauvais monsieur. »« Comment un mauvais monsieur ? Pourquoi serait-il mauvais ?»« Ah, dame, il vient de loin !» Après ce lumineux raisonnement, il prit ses jambes à son cou pour aller compter chez lui sa bonne aubaine. C'est toujours une surprise pour moi d'étudier les simples avec leurs conceptions sans relations avec la réalité, avec leurs tendances à condamner avant de savoir. Est-ce l'instinctive défense du primitif? Est-ce au contraire la dégénérescence des facultés? Est-ce défaut d'éducation? J'ai soumis la question à mon beau-frère qui, n'étant pas pour le développement des simples, m'a répondu sévèrement « Ne me parlez pas de l'instruction obligatoire qui tue l'amour du métier, déracine l'individu et fait que les maçons, au lieu de maçonner, lisent leur gazette. Beau résultat !» Nous étions assez loin du sujet, mais du moins, la réponse était un soulagement pour Maurice qui, le matin même, avait trouvé ses ouvriers, le journal en main, en train de discuter à l'aveuglette la question Extrême-Orient, au lieu de relever le mur écroulé. « Je n'ai pas d'opinion. Et vous ?»« Bonsoir. La nuit est arrivée. Elle est belle, limpide. J'y puise avec délice le sentiment religieux qu'elle répand et respire. » Catherine.